ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 23 mai 2023, le ciel du Beaujolais est toujours nuageux et Météo France a du mal à nous dire si on va avoir des éclaircies ou des petites averses cet après-midi. Quant aux températures, elles se situent autour de 22 degrés. Dans notre émission, on a rendez-vous avec Céline Benck, notre conseillère conjugale et familiale. On retrouvera également l'un de nos libraires de la librairie Des Marais. Mais avant ça, on va parler musique et en particulier d'un duo, The Fallen Birds. Ils chantent tous les deux et s'accompagnent lui à la guitare, elle au violon. On est sur de la musique pleine de douceur à écouter pour passer un bon et beau moment. Parce que c'est très beau leur musique. On peut citer comme artistes avec qui ça résonne Angus et Julia Stone, Agnès Obel ou Jeff Buckley. Et plutôt que de continuer d'en parler, le mieux c'est de vous faire écouter. Je rajouterai simplement qu'ils sont en concert ce vendredi 26 mai à l'église de Marchand, dans une ambiance toute particulière, à la lumière des bougies. Et c'est un concert qui est organisé par l'association Grobiland. On va parler de ce concert, on va parler de leur musique aux Fallen Birds avec Nico, mais comme promis, on les écoute bien sûr. Voici leur titre, Just Goodbye. Nous sommes ensemble sur Calade. Il est 12h14 et 30 secondes. Merci d'être avec nous.
I know you're there.
The Just Goodbye, c'était The Fallen Birds sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, on retrouve avec nous Nico, la moitié du duo The Fallen Birds. Bonjour.
Salut.
Alors, The Fallen Birds, comment est-ce qu'on pourrait présenter ce duo ?
C'est un duo, on va dire, pour faire très simple et très descriptif, deux voix, violon, guitare. On est deux, donc Anna au violon et qui chante, et moi la guitare et au chant. Ouais. Et on essaye de proposer une musique assez posée, assez onirique, avec plein d'harmonie, parce qu'en fait c'est vraiment parti de quelque chose, d'une appétence particulière pour les harmonies vocales.
Ouais. C'est deux voix qui s'entremêlent, se répondent.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça l'idée. C'est, en fait, tous les deux, à l'origine, on fait partie d'un groupe en parallèle qui s'appelle Selkilt.
Ouais. Selkilt, très énergique.
Selkilt, très énergique.
On peut décrire ça comme ça.
Voilà, un sacré grand écart entre les deux. Ouais. C'est un petit peu justement l'attrait de The Fallen Birds pour nous, en tout cas. Et ce qui a poussé à la création de The Fallen Birds, c'est que chez Selkilt, on a quelques morceaux un peu posés, mais c'est vrai que sur scène, c'est l'énergie, c'est la fête, c'est assez rock, celtique, voilà. Et tous les morceaux calmes, du coup, les albums ne trouvent pas forcément leur place en live sur un concert. Donc nous, on a quand même vraiment cette bipolarité dans nos goûts musicaux où on aime à la fois ce qu'on voit et à la fois les trucs super calmes. On est tous les deux bien fans de, je sais pas, des choses comme Damien Rice, Agnès Obel, ouais, et Julia Stone, des choses comme ça, beaucoup plus folk, beaucoup plus posées.
Et le point commun, ouais, peut-être entre les deux, c'est le côté anglo-saxon. Parce que c'est, je trouve, il, ouais, y a vraiment The Fallen Birds aussi une musique folk. Qui, je trouve, il y a des sonorités un peu trad parfois. C'est peut-être le violon qui fait ça.
Mais... Ouais, carrément. Bah oui, ça, c'est vrai que les sonorités un peu trad, un peu celtes, se ressentent aussi dans Fallen Birds. Et en plus, on se permet pas mal de ponts entre les deux. Mmh. On reprend quelques morceaux de justement des instrumentaux de Selkilt avec Fallen Birds, qui ont aussi, enfin voilà, c'est une couleur aussi qui nous parle. Donc ouais, c'est pas complètement opposé les deux projets, on va dire. Il y a un lien entre les deux. Il y a effectivement le violon qui fait le lien, ma voix aussi qui est commune entre les deux, qui crée un peu le lien entre les deux. Et c'est cousin. Éloigné, mais cousin.
Et je me suis demandé, j'ai regardé un peu les dates de Selkilt et de The Fallen Birds. Il y en a à peu près en même temps. Au mois de mai, il y a des concerts des deux formations, par exemple. Ouais. C'est quoi le plus fatigant à la fin ? C'est Selkilt où vous êtes dans l'énergie à fond, et en même temps, j'imagine que The Fallen Birds, c'est assez exigeant musicalement. Faut que la voix elle tienne tout le long. Je sais pas ce qui.
Alors il y a un côté très sportif dans Selkilt qui fait que chaque fin de concert on est vidé, mais c'est vrai que là, il y a une espèce d'émotion, un truc beaucoup plus profond, et dans Fallen Birds qui du coup peut être, c'est pas fatigant, mais peut être prenant aussi, quoi. C'est, ouais. On finit pas aussi transpirant.
J'imagine, mais, ça, c'est sûr.
Mais c'est pas mal quand même.
Et est-ce que travailler, on est déjà en train de parler du concert, mais il y a tout ce qui se passe avant, entre travailler à deux. Alors du coup, vous connaissiez déjà bien, j'imagine, avec Anna, votre binôme.
Ouais.
Ça se passe comment, la composition, l'écriture
Ça, c'est toujours un petit peu cryptique. Nous-mêmes, on ne sait pas trop. Des fois, on arrive avec des idées comme ça qui sont des embryons et on les fait grandir ensemble. Des fois, il y a quelque chose de plus construit et c'est juste un peu d'habillage d'un côté ou de l'autre. Et des fois, c'est vraiment de la composition ensemble avec, je sais pas, des thématiques qu'on a en tête, des phrases qu'on a envie de développer. Et voilà, on a pris pas mal de temps à composer comme ça à deux. C'est intéressant aussi. C'est pas évident parce qu'il y a en plus cette exigence entre guillemets de concilier les deux voix, et du coup il y a plein des fois de mélodies qu'on amène qui sont chouettes, mais où harmoniquement il n'y a pas grand chose qui nous vient, alors qu'il y a des fois des mélodies qui sont sublimées par justement le fait d'ajouter une deuxième voix, et qui permet voilà d'avoir des lignes mélodiques qui s'harmonisent toute la longueur, donc c'est assez sympa.
C'est assez mélancolique, on va dire, les textes en général. Déjà, juste de Fallen Birds, c'est l'image, c'est très triste des oiseaux qui sont tombés.
C'est pas faux. D'un autre côté, on les voit rarement, ces oiseaux au sol. On les voit rarement tomber. On dit quoi, les oiseaux se cachent pour mourir. C'est un peu ça. C'est un peu quelque chose de. D'un peu énigmatique aussi. Ouais. Alors mélancolique et énigmatique pour nous. Ouais. C'est mélancolique, ouais, si par la force des choses. Ouais. C'est la musique qui appelle ça aussi un petit peu. Il y a quand même un vrai lien entre les textes et la musique, donc il y a quelque chose d'assez mélancolique. Ça va pas mal. C'est vrai que c'est pas déprimant. C'est pas.
Non.
C'est mélancolique, ça convient bien, je trouve.
Et il y a, c'est ce que vous nous expliquez aussi avec le travail des harmonies. Il y a une, je trouve, la recherche de l'esthétique autant que l'émotion, mais il y a vraiment un travail sur la beauté du son, tout simplement. C'est,
c'est
dans la simplicité et l'efficacité, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. Puis à la fois, justement, c'est ce qui est intéressant, cette beauté-là. Enfin. Les harmonies, c'est vraiment quelque chose qui est en musique qui est complètement magique. Et moi, ça me transcende depuis toujours. Je passe, depuis que je suis gamin, dès qu'il y a un morceau qui passe à la radio, je vais pas chanter la voix principale, j'essaie de chanter une voix en parallèle, parce que je trouve ça fascinant, hein, de marier des notes, de marier des mélodies. Il y a une vraie recherche esthétique, quoi, c'est clair. Après, on est les premiers surpris, des fois, de mélodies qui nous tombent dessus. On fait « Waouh !» Parce que parce qu'on a la chance, justement, je trouve que nos voix se marient assez bien. Il y a des timbres comme ça qui s'accordent, et c'est le cas de nos voix. Donc c'est une chance, on en profite vraiment. Et c'est aussi comme ça qu'est né un petit peu The Fallen Birds. C'est-à-dire qu'à la toute base, dans Selkilt, on avait fait un album un peu à part, avec des reprises de Noël, des choses comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais on avait repris Amazing Grace. Amazing Grace à deux voix, comme ça. On faisait ça comme un peu un interlude sur scène, juste à deux voix, comme ça, à cappella. Et il se passait un truc, quoi. Ça faisait vibrer les gens, ça nous faisait vibrer nous. Et voilà, c'est ce qui a un petit peu porté ce truc-là. C'est cette esthétique-là, quand on rassemble des instruments ou des voix qui vont bien ensemble. Quoi.
Alors aujourd'hui, là, si on veut vous écouter, il y a un EP 5 titres qu'on peut trouver en ligne, et une reprise aussi de Alléluia. Et dans cet EP, il y a déjà une reprise, You're the One That I Want, qu'on n'attendait pas forcément à la fin de. Qui surprend, vous l'avez complètement transformé. C'est le morceau du titre de Grise, de la comédie musicale Grise.
Exact.
Complètement transformé, ça c'était un terrain de jeu, c'était quoi ?
Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un peu un défi comme ça d'amener des morceaux. Qui n'ont pas forcément grand chose à voir, et de les amener chez nous, d'essayer de les faire nôtres. Et on a fait ça avec pas mal de titres au final. Et on a notamment osé une reprise des Démons de Minuit.
Génial.
En version, parce que s'il y a des morceaux comme ça, ou les Démons de Minuit par exemple, je trouve que les paroles ne sont pas du tout adaptées à l'instrumentation originelle. Et
c'est vrai, on traîne au bout de la nuit, c'est pas aussi.
Ouais, c'est un mec qui est down, quoi, qui traîne les barres et. Et voilà, il y a un mood assez pesant, et du coup on a décidé d'adapter, de créer la musique qui va avec les paroles.
Okay. Rectifier cette erreur.
Voilà. Et puis Alléluia, c'est vrai que c'est un morceau qui a été énormément repris, mais d'un autre côté, harmonisé comme ça, pareil, on a trouvé que ça lui amenait une nouveauté, un truc super intéressant. Donc on s'y est aventuré aussi.
On pourra vous écouter en concert à Marchand le 26 mai prochain, à l'église de Marchand. Et c'est un concert aux bougies. J'ai vu quelques photos de vos concerts où il peut y avoir des projections derrière vous. C'est la scénographie, c'est important.
Ouais. Parce que ça fait partie de du mood et de l'ambiance en fait. Vraiment qui va avec la musique. Pour moi, c'est un truc complet, un concert. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose de complet. Moi, j'ai toujours été fasciné par des concerts, soit j'ai deux références en tête là. J'ai soit sur un concert quelqu'un comme Peter Gabriel qui va faire quelque chose de surprenant, de fou, avec des choses qui se passent tous les deux morceaux, et ça c'est ce qu'on avait créé notamment au théâtre de Tarare, où on avait monté un spectacle avec deux danseurs de l'Opéra d'Avignon. Donc un duo de danseurs classiques, on va dire, et où on y avait incorporé justement de la projection, de la vidéo, et pas mal de comme ça de micro-événements, de choses qui se passent et qui servent vraiment le morceau. Il y avait des jeux dans du tissu notamment avec les danseurs, des choses comme ça. Et moi, j'aime bien ressortir d'un spectacle d'une heure comme ça et me dire waouh, s'est passé plein de trucs. Et quand ils ont fait ça, c'était énorme. Et quand il s'est passé ça, ça servait complètement le morceau. Et voilà. Et donc il y a vraiment cette envie-là. Et à la fois, quand on est juste deux et quand c'est plus minimaliste, le côté à la bougie, ça apporte un truc aussi, une atmosphère vraiment particulière. Et ça, voilà, même si c'est plus restreint, on va dire, ça crée un espèce de cocon, un espèce de truc qui va super bien avec la musique. Et du coup, ça nous embarque, ça embarque les gens dans une espèce de parenthèse, en fait.
Ouais. Ça crée de l'intimité, j'ai l'impression.
Ouais, carrément. Et puis du coup, le cadre aussi de l'église, même s'il n'y a rien de religieux ou quoi que ce soit dans notre musique, loin de là, mais il y a aussi une résonance, un mood particulier qui fait que voilà, ça fait comme un espèce d'écran. Pendant une heure, on s'évade tous, quoi. Ouais. C'est chouette.
Bon, et ben un moment de magie à découvrir. Donc ce sera ce samedi, le 26 mai.
Vendredi.
Ben voilà, j'hésitais, je me suis trompé. Le vendredi 26 mai à l'église de Marchand pour écouter The Fallen Birds. Merci beaucoup, Nico.
Ben avec plaisir.
À très bientôt et puis au plaisir.
Yes, merci.
Ensemble sur Calade.
À la The Fallen Birds, je parlais du morceau You're the One That I Want qu'ils ont repris donc de la comédie musicale Grease. Je vous propose qu'on l'écoute parce que c'est une petite pépite. The Fallen Birds. Like a tears, the birds flying, and
keep yourself.
The One That I Want, c'était The Fallen Birds, qui, je le rappelle, sont en concert à la Bougie, à l'église de Marchand, ce 26 mai, et ce sera à 21h.
Ensemble sur Calade.
Mots croisés.
Allez, tout de suite, on est avec notre conseillère conjugale et familiale, Céline Benck. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et aujourd'hui, on va parler de la belle famille.
Voilà, c'est ça. C'est un sujet qui revient assez souvent, en fait, auprès des familles, auprès des couples.
Qui viennent vous consulter ?
Oui, voilà. Souvent, bon, c'est un petit peu le poncif, la belle-mère. Voilà, c'est souvent sous ouais. forme de plaisanterie, mais je ne sais pas si c'est si drôle que ça, finalement.
Il y a un petit fond de vrai, peut-être, ou je ne sais pas.
Voilà.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur sa belle-famille et quelle problématique ça peut poser Déjà, vous nous dites qu'il faut se détacher de sa famille d'origine. Ça veut dire quoi?
Ben, en fait, chacun, quand on forme un couple, quand on quitte sa famille pour former un couple avec quelqu'un d'autre, ben, c'est sûr qu'il faut qu'on arrive à se séparer de sa famille d'origine. On peut pas rester à vie l'enfant de ses parents. Et les parents non plus ne peuvent pas garder leur enfant toute la vie. Et ça, c'est un petit peu une marque du fait de devenir adulte. C'est-à-dire qu'on devient adulte en gardant ses références d'enfant, ses marques d'enfant, mais on construit aussi sa propre vie. Et c'est sûr que quand on construit un couple, et ben la priorité, ça doit être logiquement la nouvelle famille que ce couple est en train de créer.
D'accord, c'est créer un nouveau noyau familial.
Ouais, un nouveau cadre en fait. Mmh. Ouais.
D'accord, et donc se détacher de sa famille, ça demande quoi?
Bah, prendre un petit peu de distance au propre comme au figuré, c'est-à-dire pas rester toujours collé à elle. Prendre un petit peu de distance, c'est-à-dire pouvoir faire le tri entre ce qu'on a envie de garder, ce qu'on n'a pas envie de garder, de ce qu'on a reçu. Donc c'est aussi garder un certain esprit critique, c'est-à-dire que on a chacun envie de conserver des choses qui nous ont été transmises. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va dupliquer exactement le modèle que nos parents nous ont transmis et on a envie de faire le tri. Donc ça, c'est important de se le dire à soi-même et de pouvoir le dire à l'autre, dire ben voilà, moi, ce que j'ai reçu de ma famille et ce que j'ai envie d'en garder. Et l'autre fait pareil. Et du coup, c'est comme ça qu'on crée quelque chose de nouveau.
Mmh. Et quand la belle famille peut prendre un peu de place dans le couple, c'est parfois aussi quand il y a des rituels auxquels on ne peut pas échapper, que tous les samedis, il faut aller manger chez belle-maman parce que c'est comme ça.
C'est ça. Donc là, c'est des rituels. C'est important d'éviter un peu ces rituels trop figés ou quand il y a des habitudes qui sont prises et on ne peut pas y couper. Une fois que c'est commencé, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est bien de varier les plaisirs, de changer les jours, les heures, les lieux de retrouvailles, de pouvoir débarquer à l'improviste, d'organiser une semaine de temps en temps où toute la famille est réunie. En fait, ça permet de renouveler les habitudes et de garder le côté positif des traditions. Ça évite un petit peu le rituel oppressant où là, du coup, on a l'impression de subir. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas se laisser envahir et d'être plutôt acteur dans ce rituel.
Et quand on a d'un côté nos beaux-parents, d'un côté nos parents, ça peut aussi créer de l'opposition. On a peut-être envie de comparer, chez mes parents c'est comme ci, chez mes beaux-parents c'est comme ça. Ça peut être problématique.
Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un sujet de rivalité qui peut être fréquent. Et c'est là, du coup, ça va être important que chacun puisse retrouver sa place, en fait. Et chacun soit vraiment bien chez lui, c'est-à-dire que les territoires soient aussi bien marqués, c'est-à-dire que chez nous c'est chez nous et c'est pas chez ta mère quoi. Donc que par exemple si on doit faire venir un des parents ou un des beaux-parents chez nous, pouvoir définir ensemble la durée d'un éventuel hébergement. Ok, ta mère elle vient, mais limiter peut-être la venue des beaux-parents à 3 jours. Au-delà, Voilà, c'est un contrat que l'on passe au sein du couple, comme quoi la belle famille, voilà, il y a une durée limitée. Et pouvoir aussi peut-être le dire aux beaux-parents, comme ça, ça permet de faire respecter le territoire de chacun.
Ouais, c'est peut-être difficile à dire, mais une fois que c'est fait, au moins, ça évite des problèmes, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
Il faut savoir poser des limites. Bon, le cliché de la belle-maman, c'est un problème. C'est peut-être que le cliché fait du mal aussi à la relation en elle-même.
Oui, bah c'est sûr. C'est sûr que si on part dans son couple avec cette idée-là, ça va être compliqué. Après, peut-être que les relations d'aujourd'hui sont peut-être plus simples. On voit peut-être davantage maintenant des belles filles qui tutoient leur belle-mère, des choses qui ne se faisaient pas il y a 30 ans. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une rivalité où la belle-mère a l'impression que son fils a été pris par la belle-fille, où la belle-mère peut aussi jalouser, la mère peut jalouser le bonheur de sa propre fille. Et ça renvoie aussi le couple des beaux-parents et des parents, ça les renvoie aussi à leur propre bonheur, quoi, et de se dire, ma fille ou mon fils peuvent être heureux en dehors de la cellule d'origine. Ouais. Et ça peut être un petit peu compliqué. Mais en fait, c'est pas nécessaire que ça se passe mal. On peut aussi lutter contre ce stéréotype et essayer de négocier aussi quand il y a quelque chose qui va pas bien ou quand on n'est pas forcément d'accord. Comme des adultes, en fait, on peut aussi s'expliquer, faire part de ses émotions, essayer de surmonter les choses qui vont pas.
Ouais. Il peut y avoir des rivalités entre les deux couples parentaux, on va dire, d'un autre couple. Ça peut...
Alors peut-être quand il y a un enfant qui pointe son nez, ça peut arriver dans le temps qui va être consacré aux petits-enfants. Donc les beaux-parents respectifs vont peut-être essayer de que les choses soient équitables et que si les uns gardent les enfants deux jours, mettons, et ben que eux aussi puissent les garder deux jours. Mais en même temps, plutôt que de faire une espèce de rivalité, je trouve que c'est intéressant que le nouveau couple puisse se faire des alliés de ces parents-là. Et justement en profiter pour être attentif aussi à une certaine équité entre les deux. Et confier les enfants pour se retrouver en amoureux, pouvoir partir le temps d'un week-end ou de vacances. Et là, pour le coup, les parents et les beaux-parents, on est vraiment content de les retrouver.
Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de couples qui comptent pas mal sur les grands-parents et heureusement qu'ils sont là.
C'est ça.
Bon, pour résumer, alors comment est-ce qu'on peut avoir une relation saine avec ses beaux-parents ? Est-ce qu'il y a quelques astuces pour être sûr que tout se passe bien ?
Oui, alors on peut rappeler donc les petites astuces. J'en ai déjà un petit peu parlé. Donc déjà, bien distinguer le chez-nous et le chez-eux. Que les limites soient bien claires, donc définir la durée d'un éventuel hébergement d'un parent, demander son avis à notre conjoint avant de donner une réponse à l'un de ses parents. Imaginez un des parents demande, tiens, est-ce que je peux prendre les petits-enfants aux vacances prochaines ? Plutôt que de répondre tout de suite, dire, je vais en parler avec mon conjoint.
Ouais.
Et puis, je lui donne une réponse, mais voilà, que le nouveau couple soit quand même prioritaire par rapport... aux parents du dessus, j'allais dire. Pareil, avant de parler de quelque chose à ses parents, c'est important d'en parler aussi au conjoint. C'est-à-dire, par exemple, ne pas privilégier sa famille d'origine, par exemple pour annoncer un changement de travail ou pour annoncer des petites choses comme des grandes choses. Mais que d'abord, ce soit le conjoint qui soit prioritaire par rapport à ça. On pourrait dire aussi refuser les cadeaux trop intrusifs, du genre des aides financières trop importantes, qui peuvent après être un petit peu comme des dettes familiales que l'on aurait envers ses parents et qui peuvent aussi créer un déséquilibre, notamment par rapport aux autres beaux-parents.
Ouais, on se sent redevable.
Voilà, c'est ça. Éviter aussi de trop se reposer sur ses parents ou ses beaux-parents. Alors c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'eux pour se soulager, mais... c'est important aussi de bien faire la frontière. C'est vrai que quand des grands-parents deviennent les nounous des enfants, des petits-enfants, ça crée une relation qui n'est pas tout à fait ajustée. Ouais. Donc c'est peut-être intéressant de bien délimiter et que la nounou, c'est la nounou, le grand-parent, c'est un grand-parent et il n'a pas à s'occuper des petits-enfants toute la journée. Peut-être aussi ne pas dénigrer la famille de l'autre.
Alors ça, bien sûr.
C'est facile à dire, mais voilà, c'est apprendre à s'exprimer de façon constructive quoi, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et quoi qu'il arrive, c'est important que le couple reste soudé, vous aurez compris. Et voilà, c'est possible de se faire aider pour en parler avec une tierce personne, comme une conseillère conjugale, évidemment. si c'est un sujet qui est délicat et qui revient souvent sur le tapis.
Ouais, très bien. Bon, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est vrai qu'avoir une relation saine avec ses beaux-parents, c'est quand même toujours mieux. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci Mathieu, au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah j'en profite, on a parlé famille, on écoute Orelsan avec La famille, la famille.
La famille, la famille. La famille, la famille, la famille. La famille. Assis au milieu d'une salle des fêtes qui pue le moisi. Un an après avoir avoué je déteste ces fêtes de famille. Je pensais jamais revenir, c'est comme si j'étais jamais parti. Je crois même que tata réutilise les mêmes verres en plastique. J'ai cru que la famille allait me lyncher. La moitié m'a dit que ça les fait marrer. L'autre agit comme si j'avais rien fait. Combien de fois je les ai défoncés dans mes textes. Pourquoi j'écris la même merde que les comédies françaises que je déteste. C'est quand on risque de perdre les choses qu'on comprend leur valeur. Je suis émotif, j'aurais pas dû attaquer le punch à 4 heures. C'est fou à quel point je suis soulagé que personne fasse la gueule. Super. Ça me demande de chanter, je crois que je vais faire tout seul. J'aimerais faire un discours parce que j'ai bu. Levez tous vos verres, j'aimerais dire un truc. Pour les bons et les moments gênants qu'on a vécu. Pour tous ceux qu'on verra jamais plus, j'aimerais rappeler. On aurait pu trouver des excuses. Mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre. On restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. On va se faire chier si je vous fais des excuses. Souvent je parle de disputes, de fin de repas, j'aimerais parler des débuts. Quand Christian faisait le Père Noël, jusqu'à 10 ans j'y ai cru. Le jour où Nico m'expliquait pourquoi c'est Nike qu'on débule. Bien sûr, personne aime voir son père faire des blagues de cul. Mais bizarrement, c'est le genre de blague grâce auquel je suis connu. Les parties de foot avec les cousins m'ont appris un truc. C'est qu'on a besoin que deux cailloux pour avoir un but. J'y ai pas cru quand Tata m'a offert Megaman. J'avais même pas la Mega Drive, je kiffais rien que de regarder la boîte. Quand vous dansiez la chenille, je rêvais d'être né autre part. Comment j'ai fait pour pas voir que tout le monde s'amusait sauf moi. La fois où tonton allait mal et qu'il a pas fait de blague. J'ai compris que même si elles sont nazes, il vaut mieux qu'il les fasse. Pour fêter mon permis, il m'a prêté son escorte. Un vrai choc, tellement fier, j'ai décapoté sous la flotte. Bruno a sauvé des hivers avec son caméscope. S'il y avait YouTube, je te jure qu'on aurait percé à l'époque. En fait, j'en rajoute, c'était nul, on aurait fait un flop. Ma mère était affligée, mais elle disait qu'elle trouvait ça top. À toutes ces générations mariées trop tôt qui me donnent espoir quand je vois les couples vieillir ensemble sur des photos. Moi aussi je me sens vieux quand je discute avec Polo, mais il me fait découvrir ces nouveaux rappeurs à qui j'ai pompé trop de flow. Je sais que son père est pas vraiment raciste, juste méchamment naïf. Il a plus le choix depuis que la famille a des branches en Afrique. Mon beau-frère l'applaudit beaucoup, mais prends soin de ma frangine. Et vu qu'elle boit pas ce soir, j'ai l'impression que la famille s'agrandit. On fera la fête en famille tant qu'on sera en vie, je vous le garantis. La prochaine fois c'est moi qui lance la chenille, mamie sois tranquille. Le punch est dégueulasse parce que c'est moi qui l'ai fait. J'aimerais faire un discours parce que j'ai bu. Levez tous vos verres, j'aimerais dire un truc. Pour les bons et les moments gênants qu'on a vécu. Pour tous ceux qu'on verra jamais plus, j'aimerais rappeler. On aurait pu trouver des excuses. Mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre. On restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. On aurait pu trouver des excuses, mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre, on restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue.
Orelsan sur Calade avec La famille, la famille.
Encore un peu de lecture.
Ensemble sur Calade.
Mais bon, mais c'est un bon bouquin, je veux dire, c'est sérieux.
L'humeur littéraire du libraire.
Et pour parler littérature, on retrouve Bertrand, notre libraire. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme. Oh. D'une femme qui pour nous sera à l'honneur cette semaine, puisqu'on va essayer de comprendre qui était cette femme. Alors, quelques petits indices. Mmh. Elle s'appelle en fait Sidonie Gabriel. Ça devient clair là.
Je connais pas malheureusement.
C'est une certaine Colette. Alors, Colette, bon, en règle générale, Colette, on la connaît un petit peu plus, mais en fait, on la connaît très mal. Et on va faire vendredi soir au théâtre une lecture autour justement de la vie de Colette. Ça m'intéressait depuis longtemps. Alors, comme beaucoup de personnes, Colette, on l'a parfois lu à l'école ou pas. On entend très souvent parler des références sur cette fameuse Colette, qui donc s'appelait Sidonie Gabrielle de prénom. En fait, Colette était son nom de famille. Mmh. Et on fête cette année les 150 ans de sa naissance dans un tout petit village de Bourgogne, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et du coup, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin et d'aller un peu fouiller dans les multiples romans, articles et surtout dans la vie de Colette. Alors, en quelques minutes, ça va être très très compliqué de raconter la vie de Colette, mais ce qui est assez intéressant, alors bon, il y a des livres que l'on va connaître, hein. Les scolaires évidemment lisent beaucoup Sido ou Les Vrilles de la Vigne, après il y a eu effectivement Chéri, Gigi, La Chatte, il y a eu Le Blé en Herbe bien sûr, Le Pur et l'Impur, enfin voilà, tous des titres qui nous parlent un petit peu. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait un petit peu d'évoquer, c'était cette fameuse vie. Parce que, alors, elle est née en 1873. Elle est née, à la campagne. Ses parents étaient des petits bourgeois qui vont pas faire de bonnes affaires, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tout le monde va devoir quitter la maison familiale. Donc on pourrait se dire, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être une jolie vie, mais pas forcément ce qu'on pourrait en attendre. Et puis elle a rencontré, comme beaucoup de personnes, elle a rencontré un homme qui s'appelle Willy. Et cet homme, alors bon, pas forcément hyper, hyper sympa, surtout l'histoire, on a fait un personnage un petit peu ambigu, mais c'est quelqu'un qui... qui est assez flamboyant, qui vit à Paris, qui a toutes ses entrées, et qui, du haut de ses 20 ans, se marie avec Colette. Enfin, c'est Colette qui a 20 ans. Et alors là, c'est une nouvelle vie qui commence, et là, on a notre Colette qu'on va connaître. C'est-à-dire, Colette, c'est à la fois donc une écrivaine. Mmh. Alors, Claudine à l'école, Claudine à Paris, c'est ce qui va faire sa renommée, même si à l'époque, en fait, elle ne publiait pas sous son nom, mais sous le nom de son mari. Ouais. Comme quoi, voilà, c'était une autre époque. Et alors là, Colette, quand on regarde, elle va faire 10 000 choses. Donc évidemment écrivaine, journaliste, mais elle va être également comédienne. Alors parfois une comédienne ou... Parfois elle montre un sein, elle n'avait pas fait exprès. Parfois c'est même très très musical, etc. Elle va avoir des aventures, parce que du coup avec Willy, évidemment, ça va très vite coincer. Donc elle va être en ménage avec une femme pendant des années. Elle va se marier avec un homme. Puis après, elle va avoir une aventure avec le fils. Donc ça, c'est la Colette un peu extravagante, etc. Donc qui est aussi très attachante. Mmh. Bon, je pense qu'au quotidien, elle doit être un peu insupportable. Bon, ça, c'est que mon avis, mais parce que c'est un tempérament. Hein.
Ouais.
Elle a d'ailleurs gardé toute sa vie son accent bourguignon. Donc ce qui est assez drôle, parce que c'est un peu rauque comme ça. Et c'est aussi une femme de presse, parce qu'elle va écrire beaucoup, donc dans les journaux de son mari le matin, elle va écrire pour d'autres journaux, elle va écrire pendant la Première Guerre mondiale, hein, où là elle va tout faire pour essayer de rejoindre son mari qui est à Verdun, donc elle va vivre plein d'aventures. Et puis après, bien plus tard, c'est elle qui participera au premier bateau transatlantique. Elle en fera un grand, grand article sur cette folie de ce bateau qui arrive à New York sous les vivas. Et puis c'est une femme qui, sous la Seconde Guerre mondiale, pareil, va vouloir libérer à tout prix son mari. C'est un nouveau, hein. Je passe sur les multiples mariages. Ouais, un autre. Elle va tout faire, donc quitte à se compromettre un peu dans la collaboration, mais dont le seul but était quand même de libérer son mari. Et puis, ben, elle a vécu la fin de sa vie sous les honneurs. Mmh. Hein, ça a été, là, évidemment, elle a eu la Légion d'honneur, mais elle a été présidente du prix Goncourt, et elle habitait au Palais Royal. Et alors Mathieu, quelle était son adresse ? La rue qu'elle habitait, c'était la rue du Beaujolais.
Eh ben...
C'est pas beau ça quand même. Hein, voilà. Elle est même d'ailleurs venue en Beaujolais et à Lima, où elle avait des amis. Donc elle a même fait une petite excursion dans notre petite province beaujolaise. Et voilà. Et alors quand on lit tout ça, quand on lit ces romans, dont certains sont un peu datés et d'autres sont assez extraordinaires, eh ben voilà, on a vraiment ici le portrait d'une femme très libre. Alors, très libre d'un point de vue personnel, très libre aussi de choisir ses envies, ses romans, ses journaux. Elle ira même en 1932 jusqu'à se lancer, parce qu'elle était un peu dépensière apparemment, donc parfois il manquait quelques petits sous à la maison, et à carrément se lancer dans les cosmétiques. Elle va ouvrir un salon un salon d'esthéticienne. Elle va créer ses propres produits. Du coup, c'est assez fou tout ce que cette femme, à l'époque où les femmes sont encore très corsetées, hein, c'est pas évident que les femmes aient un métier, pas évident que les femmes aient aussi une sexualité comme elle a eu, très libre, avec plusieurs maris, avec plusieurs aventures, avec, avoir eu une liaison et avoir un couple lesbien. Donc c'est assez fascinant, et du coup, mon conseil... hormis de venir vendredi au théâtre à écouter un petit peu plus sur la vie de Colette, mais c'est de lire Colette, parce qu'il y a aussi une attention très très forte aux autres. Alors elle adorait les animaux par exemple, elle adorait la vie en général, et elle adorait aussi la nature. Et donc quand on se plonge par exemple dans Cido était le nom de sa maman, on est dans cette nature de Bourgogne qui est absolument magnifique. Et pour quelqu'un qui a au final plus vécu à Paris, on a de très très beaux, très belles pages sur l'univers de la nature. Et donc ça nous donne un portrait assez fascinant. Donc elle aurait eu 150 ans cette année.
Ouais.
Et elle est morte en 1954, évidemment, à Paris, au Palais Royal, et donc, encore une fois, rue du Beaujolais.
Très bien. Je vois, il y a énormément, elle a publié énormément de livres.
Ouais.
Vous nous avez conseillé Cido, si on devait en dire, je sais pas.
Je trouve que Cido, c'est pour le côté un peu plus le lien avec la nature et autres. Mais moi j'aime bien la chatte parce que c'est autour d'une chatte et il y a un bel univers animalier. Là, elle adorait profondément ses chiens, ses chats, donc j'aime bien. Après, Le blé en herbe, pour moi, a un petit peu vieilli. Mmh. C'était l'histoire. De deux adolescents, histoire d'amour, il y a une femme d'un âge un peu plus avancé qui est là, donc on doute bien que c'est Colette. Il y avait aussi Chéri qui était très beau, et puis il y en avait un qui était très très intéressant qui s'appelle Le pur et l'impur. Et Le pur et l'impur est un texte qui a été très décrit à l'époque, dans les années 30, où elle raconte aussi tout ce qui à l'époque peut paraître scandaleux, les endroits où on fume de l'opium, les bars un peu interlopes, donc c'est des endroits aussi qu'elle a fréquenté, et elle montre aussi que elle n'aimait pas tout ce qui était un petit peu interdit, un petit peu décalé, et que parfois elle avait envie d'une vie aussi simple, donc c'est un personnage assez multiple avec beaucoup de facettes, mais qui est assez extraordinaire. Et puis si vous avez l'occasion, alors quand vous allez sur Lina ou autre, d'écouter des extraits où on entend sa voix, C'est assez génial parce qu'elle a une voix rocailleuse comme ça.
Avec l'accent de
Bourguignon. Ah ouais. Et en plus, parlant de Bourguignon, elle a même fait des livres de recettes de cuisine. Et là, pareil, c'est assez extraordinaire. Parce que j'ai un peu peur qu'elle avait un bon coup de fourchette. Ouais. Parce que alors, les plats qu'elle propose, bon, alors, on est assez loin des plats d'aujourd'hui en mode végétarien, vegan et avec ou sans gluten. Là, on est plutôt dans des plats qui tiennent au corps.
Très bien, des plats comme on aime. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand.
Voilà tout l'univers de Colette.
Parfait, voilà. Merci.
Donc, bonne lecture.
À très bientôt, bonne fin de journée.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.